Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est donner la parole à des personnes qui prennent la route, qui se mettent en mouvement. Et l'idée de Regarde ailleurs, élargir son regard sur le monde à travers toutes ces rencontres qu'on peut faire sur les routes du monde. Voilà, donc Regarde ailleurs, élargir son spectre et sa vision grâce au partage d'expériences. Donc là, Gala, tu es dans mon salon. Et il y a quelques temps, j'ai vu que tu avais publié quelque chose pour dire que tu allais partir sur les routes de France à pied pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour traverser toute la France. J'avais trouvé ça vraiment chouette et je m'étais dit, tiens, mais que s'est-il passé dans la vie de cette personne pour qu'à plus de 40 ans, tu fasses le choix de vivre une expérience relativement forte. Donc on va revenir un peu sur ton parcours à toi et revenir aussi à ce moment où tu as mis le mouvement et le voyage dans ta vie.
Bonjour Alexandre, merci pour l'accueil dans ton salon. Donc voilà, je m'appelle Gala, j'ai 44 ans. Pour mon parcours, j'ai été une très jeune maman puisque j'ai eu mon premier enfant à 19 ans, ma fille ensuite à 23 ans. Donc c'est vrai que les 40 ans ont représenté aussi la fin d'un cycle avec les enfants qui quittent le nid et puis plein de possibles qui s'ouvrent. Et du coup, j'avais effectivement envie envie d'ouvrir un petit peu les portes et puis d'oser partir un peu à l'aventure et sortir de ce quotidien un peu planifié que j'avais eu pendant une vingtaine d'années. Donc du coup voilà, il y a eu un petit peu un enchaînement d'événements pas forcément heureux mais qui m'ont permis d'aller finalement jusqu'à la démission et puis de m'offrir plus d'un an de pause, de voyage, d'abord avec ma fille, en tête à tête avec elle. Et puis ensuite, effectivement, j'avais envie depuis des années de m'offrir une longue marche toute seule, plutôt dans la nature. Et du coup, je suis partie fin mai l'année dernière sur un sentier qui s'appelle l'Exatrek. Et qui est en fait une traversée de la France par les montagnes. Donc on part du nord de l'Alsace, on traverse les Vosges, le Jura, les Alpes, les Hautes-Alpes, les Cévennes et les Pyrénées jusqu'à Hendaye. Donc c'est un trek qui fait 3000 km. Moi je ne l'ai pas fait en entier, mais j'ai fait 2300 km de marche du coup pendant presque 5 mois. Toute seule avec mon petit sac à dos, ma tente et mon petit carnet. Et voilà, c'était une expérience absolument intense et géniale. J'étais pas forcément... j'avais pas pour objectif absolument d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, on verra jusqu'où j'arrive. Et puis, j'étais jusqu'à l'océan.
Donc l'Exatrek, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Donc j'entends que tu as mis un peu ta vie perso de côté pendant toutes ces années où tu t'es affairé à grandir tes enfants. Est-ce que l'idée de voyage était déjà là pendant cette phase de vie? Est-ce que tu savais qu'un jour tu aurais envie peut-être de réaliser des rêves que tu n'avais pas eu le temps de réaliser parce que très jeune maman?
Oui, alors en partie. Après, je ne vais pas dire que mes enfants m'ont empêché de vivre des rêves parce que j'ai quand même voyagé avec eux ou sans eux. J'avais fait un premier voyage quand j'étais encore étudiante. J'étais partie en Iran et en Afghanistan où j'avais fait, dans le cadre d'un voyage, c'était l'objet d'un mémoire universitaire. Et puis après, avec les enfants, j'étais aussi partie avec eux au Laos pendant un mois et demi. Donc voilà, c'était autre chose. J'étais beaucoup plus jeune. Mais voilà, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie, même si voilà, je suis pas une grande voyageuse comme toi, mais ça a toujours été là. Ouais.
C'est une question que je pose souvent à la fin des émissions. Je la posais au début. C'est quoi pour toi le voyage? Comment tu le définirais? Et qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie? Tu parles de Laos, d'Afghanistan, d'Iran. Voilà, donc c'est souvent quelque chose qui, enfin, apparemment, ça t'habite aussi. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi le voyage? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Ou qu'est-ce que ça peut t'apporter?
D'abord, une rencontre avec des gens et un environnement qui est éloigné de mon quotidien. Et c'est vrai que j'aime particulièrement le fait aussi de voyager, ou que ce soit en France ou ailleurs, mais aussi quand t'es seul. Je trouve que la solitude amène la rencontre. Et quand je voyage et que je suis pas seule, il se passe pas du tout la même chose. Et du coup, c'est aussi ça que j'aime dans le voyage. Voilà, c'est la rencontre des autres, se laisser surprendre, se laisser bousculer. Et puis aussi les moments de galère, les moments où on se sent complètement paumé. Mais on peut pas ne pas y revenir, je trouve.
Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que souvent la mise en mouvement est plus facile à 20 ou à 30 ans, mais à 40, c'est plus compliqué. Hein, on prend des habitudes, on crée sa zone de confort et tout lâcher pour faire un pas de côté et se remettre en mouvement, notamment partir à pied, c'est pas forcément quelque chose d'aussi simple à mettre en place à 40 qu'à 30 ans. Et pourtant, tu l'as fait.
Oui, alors c'est vrai que c'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai sur les chemins, j'ai croisé très peu de gens de mon âge. J'ai croisé soit des moins de 30 ans, soit des gens plus âgés. Après, je pense que c'est aussi des parcours de vie. Moi, j'ai eu mes enfants super jeunes. Donc souvent, les gens qui sont dans la quarantaine, soit ils sont un peu installés dans avec des enfants plutôt en bas âge pour ceux qui ont des enfants, ou voilà, il y a des histoires de carrière. Moi, j'ai un peu tout fait dans tout le désordre. Et je trouve ça chouette, parce que du coup j'ai 44 ans, et puis je me suis posé des questions qu'on se pose d'ordinaire à 20 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ma vie? Je pourrais faire ça. Et puis tout est possible en fait à tout âge, et je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'est jamais trop tard pour se faire cadeau de sa vie.
C'est beau ça, il n'est jamais trop tard pour faire cadeau de sa vie, et tout est possible à chaque instant. Donc c'est vrai que ce tout est possible, t'as raison, c'est bien de le nourrir un peu comme un mantra et de garder ça comme une direction de vie, parce que tout est possible, mais tout n'est pas simple non plus, notamment à 40 ans où on a des fois, tu disais, une famille, des crédits, enfin un boulot. Donc c'est vraiment ça qui m'a interpellé, de t'offrir cette possibilité-là. Donc comment est-ce qu'on organise ça, ce départ, sans forcément avoir de retour?
Bon, alors moi, c'est si on veut remonter les choses, j'ai perdu ma grand-mère de qui j'étais très proche fin 2022. Et donc ça a été un moment qui était un petit peu compliqué pour moi. Et en fait, suite à son décès, elle m'a laissé un petit peu d'argent qui me permettait de ne pas travailler pendant une année et demie. Et du coup, j'ai choisi de me faire ce cadeau-là avec ce qu'elle me laissait, de m'offrir du temps, et puis de prendre le risque, entre guillemets, voilà, de partir sans savoir quand j'allais revenir, comment j'allais revenir, ce que j'allais faire après. Alors c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec ça. Il y a des moments où j'ai douté, où je me suis dit je vais revenir, j'ai rien, j'ai plus de travail. Et en même temps, c'était à refaire demain, je repars direct. En plus, maintenant, je sais où est la clé. J'ai la cache à l'intérieur de moi, mais je sais bien où elle est.
La clé de quoi?
La clé de l'aventure.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quand tu as annoncé ce projet à tes enfants, comment est-ce que ça t'est accueilli? Quand tu leur as dit, bon maman, on va partir pendant plusieurs mois traverser la France sur l'Exatrek à pied, quelle a été leur réaction?
Alors ils ont été très soutenants. Il trouvait ça un peu fou. Ce qui est rigolo, c'est que quand je suis arrivée dans les Pyrénées, donc ça faisait déjà un moment que j'étais partie, j'avais mon fils au téléphone et puis il m'a dit « Bon maman, je vais quand même t'avouer un truc, mais honnêtement, jamais de la vie, je pensais que t'allais y arriver. » Donc voilà, ils étaient encourageants. Après, voilà, ils étaient aussi en disant « Bah, physiquement, est-ce qu'elle va tenir ?» Moi aussi, pour moi, c'était mon plus grand doute, mais voilà, finalement, j'ai tenu. Et puis mes enfants m'ont fait une visite surprise en Ardèche. Et j'avoue que c'était très, très sympa, très émouvant. Ils sont venus passer 3 jours avec moi. Voilà, ils étaient présents là, en vrai. Et puis sinon, pendant tout le chemin, ils étaient vraiment là avec moi aussi, en pensée en tout cas.
Par rapport à la marche, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est la plus vieille activité physique du monde. Hein, de tout temps, l'homme a marché. Avant d'être sédentaire, on était chasseur-cueilleur, on était semi-nomade, on se déplaçait en fonction au rythme des saisons, en fonction de l'alimentation, du déplacement des animaux. Donc finalement, la marche est quelque chose de très organique qu'on a en nous, mais on a souvent tendance à l'oublier. Et souvent, on se met des limites, des barrières, on pense que c'est compliqué. Hein. Je ne suis pas sportif, c'est compliqué, j'ai pas l'endurance, je vais pas y arriver. Sur Compostelle, c'est bon, beaucoup de gens font ça aussi hein, pour transcender souvent ces peurs. D'ailleurs, on entend souvent aussi cette phrase que j'aime bien qui dit que le poids de ton sac représente le poids de tes peurs. On parlera aussi du sac qu'on embarque quand on part aussi longtemps. Mais c'est vrai que la marche, c'est quand même une activité pour laquelle on est programmé.
Ah, complètement, je suis tout à fait. Pour moi, c'est voilà, j'avais croisé un vieux monsieur qui marchait avec moi sur les chemins et qui m'a dit les oiseaux sont faits pour voler, les poissons sont faits pour nager et les humains sont faits pour marcher. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de c'est un mouvement en fait qui est hyper naturel et qui amène après aussi c'est un petit rythme après que tu prends et qui c'est pas pour rien qu'il y a aussi je pense plein d'écrivains voyageurs qui marchent aussi pour trouver l'inspiration pour il y a plein de choses qui montent à la surface aussi quand on marche et puis ce temps un peu offert c'est quand même effectivement une activité qui peut être très introspective mais même s'il y a beaucoup de rencontres qui se font en chemin, c'est aussi, je trouve, un temps précieux pour voilà, pour juste avoir du temps pour penser, sans, je dis souvent, sans compte à rebours, sans compte à rendre, voilà, quelque chose de très très posé et que j'aimerais bien réussir à garder, même si aujourd'hui je suis revenue à une vie un peu plus sédentaire, en tout cas pour l'instant, que j'arrive à garder comme un petit trésor à l'intérieur de moi dans lequel je peux aller puiser régulièrement.
Quand on pense à la marche, en tout cas en France, on va penser à Compostelle, on pense aussi au chemin de Stevenson, plus récemment les chemins noirs à travers le bouquin de Sylvain Tesson, écrivain voyageur. Mais toi, tu me parles de l'Exatrek. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu eu connaissance de ce trek? Et raconte-nous un petit peu ce que c'est que l'Exatrek, qu'est-ce que ça représente et qui est-ce qu'on croise sur ce chemin?
Alors oui, d'ailleurs, effectivement, j'étais à la base partie pour faire le chemin de Stevenson, donc qui est un chemin qui se fait plutôt une quinzaine de jours. Enfin, finalement, j'ai changé d'avis. L'Exatrek, c'est ce qu'on s'appelle en anglais, ils appellent ça le true hike. C'est vraiment de la longue randonnée et c'est un tracé qui est assez récent. Puisqu'ils l'ont donc c'est un petit groupe bénévole qui l'ont fait en 2022 si je dis pas de bêtises et donc du coup c'est vraiment une traversée de la France par les montagnes donc ça fait 3000 kilomètres en tout et du coup alors comme c'est un sentier qui est pas encore très très connu il n'y a pas forcément énormément de monde qui le font pour l'instant après c'est un sentier qui emprunte aussi pas mal de GR connus donc on peut quand même croiser des gens qui font certains GR ou d'autres exatrekeurs et exatrekeuses comme on s'appelle entre nous et après c'est vraiment moi je l'ai découvert complètement par hasard, c'est assez rigolo, c'est un gardien de refuge au Canada qui m'en a parlé en me disant qu'il aimerait beaucoup venir en France pour faire l'Exatrek. Et du coup, moi, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a présenté, il m'a montré le site de l'Exatrek. Et puis après, ça ne m'est pas sorti de la tête. Et je me suis dit, ben voilà, je voulais faire une longue bâche. Je crois que je l'ai trouvé. Même si, bon, du coup, je ne suis pas partie sur la marche la plus simple. Parce que qui dit traverser par les montagnes m'a dit quand même pas mal de dénivelé. Et vu la longueur du trek, ben, il faut aussi avoir s'engager sur un temps long dans la marche. Donc voilà comment je l'ai découvert et comment je me suis lancée un peu la fleur au fusil. Hein. J'y suis allée vraiment en me disant bon, ben, on verra bien jusqu'où se tient. Le démarrage n'était pas facile parce que j'ai eu des grosses douleurs au tendon. Donc j'ai failli m'arrêter à Saverne au bout d'une semaine de marche. Je me suis dit bon, là quand même, c'est vraiment... finalement, voilà, j'ai continué, je me suis massé les pieds, j'ai changé de chaussures, j'y suis allée doucement. Et puis, ça a duré 4 mois et demi. Et c'était plein de belles rencontres et puis quand même une traversée d'un pays qui est hallucinant.
On développera un petit peu l'itinéraire plus tard, mais je reviens au début de cette marche. Donc on passe d'une vie sédentaire, une vie sédentaire, une vie de mouvement et une vie nomade. Comment est-ce que le corps s'adapte? Tu disais la première semaine c'était compliqué. Donc est-ce que tu pourrais me parler de l'observation et l'adaptation de ton corps sur ce chemin, sur ce mouvement, sur cette marche?
Pour moi, c'était la plus grande incertitude. C'était est-ce que vraiment physiquement, je vais, même si ce qu'on disait avant que l'humain est fait pour la marche, sur un temps si long, avec un sac à dos, avec je trouve que le corps a des ressources assez incroyables. Et même si le début était difficile, évidemment à la radio on le voit pas, mais je suis un tout petit gabarit, hein, je fais 1m53. Donc un sac de 10 kilos sur 1m53, c'est pas la même chose qu'un sac de 10 kilos si on fait 1m80. Donc mes petits pieds, ils ont pas été fanas au début de l'idée. Mais le corps s'adapte et surtout je pense que c'est aussi, moi qui avais une vie jusque-là plutôt sédentaire, j'ai développé aussi une écoute de mon corps et puis c'est comme si j'avais découvert des muscles. Je me disais, mais dites donc, mais j'ai jamais rien senti de ce côté-là. Et puis finalement, voilà, on se découvre aussi comme ça. Et puis je le remercie beaucoup parce que vraiment, il m'a porté jusqu'au bout sur les 2300 km. Et je lui en ai fait un peu baver aussi, mais il était là, il m'a... je le remercie.
Gala, donc tu as marché 2300 km sur l'Exatrek. Je me rappelle t'avoir croisé quelques jours avant ton départ, ça devait être l'été dernier, sur un festival ici en Alsace. Et je t'avais dit, qu'est-ce que tu mets dans ton sac? L'idée, c'est d'être le plus minimaliste possible aussi quand on est en mouvement. Donc qu'est-ce que tu mets dans ton sac? Et aussi, qu'est-ce que le dépouillement t'a appris? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on est là toujours à encombrer nos vies d'objets. Et c'est quand on se retrouve en mouvement qu'on se rend compte à quel point tout ce qu'on a dans nos vies peut être des fois complètement superflu.
Oui, alors là, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel parce que j'ai rencontré d'autres exatrekeuses, dont une là qui l'a fait aussi, qui disait qu'elle avait fait l'exatrek avec un sac de 18 kilos, donc ce qui me paraissait complètement fou. Mais bon, elle fait pas 1m53. Mais après, effectivement, moi, je suis plutôt minimaliste parce que j'ai envie que ça pèse, ce soit le plus léger possible. Et effectivement, pour te rejoindre, on a besoin de très peu de choses. C'est sûr que tu ne vas pas se prendre une petite douche tous les jours. J'avais un short, un pantalon et encore pas tout le temps. Après, la difficulté, c'est que comme c'est une marche qui se fait sur un temps long et qu'en plus, l'année dernière, on a eu une météo particulière. Donc, tu passes de journées interminables sous la pluie, à la canicule, à la neige dans les Pyrénées. Donc, il faut aussi avoir des vêtements pour supporter tout ça. Mais en fait, dans le sac, moi, mon luxe que j'avais tout du long, c'est une liseuse. Parce que j'avais quand même envie de bouquiner et que quand on est en bivouac et qu'il fait froid et qu'à partir de 19h on est sous son duvet, c'est quand même sympa d'avoir de quoi bouquiner. Et un carnet parce que du coup j'ai beaucoup écrit pendant ces mois de marche et que j'avais pas envie d'écrire sur mon téléphone. Mais ça voilà, c'est peut-être parce que je suis déjà vieille et que j'aime bien les stylos plumes et les cahiers.
donc 2300 km sur 4 mois et demi. Emmène-nous avec toi sur une journée type. Voilà, comment ça se passe? Où est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on est dans un refuge? Est-ce qu'on est dans une tente? Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se réveille? Comment est-ce qu'on se met en chemin? Quand est-ce qu'on sait, quand on s'arrête? Donc voilà, essaie de nous faire revivre, d'offrir une dimension visuelle à celui qui écoute cette émission. Donc une journée avec toi, Gala, sur l'Exatrack.
Alors, de manière générale, on a un rythme qui, en tout cas pour moi, était assez lié au soleil. Donc, tu te lèves très tôt. Quand il fait très chaud, tu te lèves même quand il fait encore nuit pour partir encore de nuit à la frontale pour éviter les grosses chaleurs. Moi, je marchais en moyenne entre 20 et 25 km par jour. Je suis plutôt quelqu'un qui marche assez lentement, qui aime bien faire des pauses. S'il y a un endroit que je trouve beau, j'aime bien m'arrêter. Si je vois un beau village, je vais m'arrêter sur une terrasse, je vais boire une petite bière et puis je vais repartir. Donc, tu passes quand même de longues heures à marcher dans la journée, c'est quand même son activité principale. Et puis après, en fin d'après-midi, j'aime quand même bien savoir où je vais poser ma tente. J'aime pas poser ma tente de nuit, donc de toute façon, savoir où on dort le soir. À partir de 16-17 heures, j'aime bien commencer à me projeter. Alors sur l'ensemble de l'Exatrack, je pense que j'ai fait 70% de bivouac à peu près. Et puis le reste du temps, dans des refuges, dans des gîtes d'étape, dans des fermes, parfois dans des jardins d'habitants. Voilà ce que je disais avant sur le fait d'être toute seule et d'être une femme seule. Pour une fois, c'est vraiment un super avantage. Alors je le dis, j'ai eu vraiment énormément de gens très sympathiques, très accueillants, qui m'ont invité à manger, invité à dormir chez eux. J'ai dormi dans des abbayes avec des moines. Enfin, pas avec eux, hein, mais... il y a vraiment... J'ai découvert aussi, moi j'avais jamais fait pour le coup de longues randonnées comme ça, j'étais jamais partie en bivouac toute seule dans la montagne. Alors c'est sûr que les premières nuits, t'avances dans la forêt, tu dis bon bah là l'endroit il a l'air pas mal, je vais poser ma tente. Moi j'ai pas fermé l'œil la première nuit, c'est sûr que j'étais... C'est pas vraiment que j'avais peur, mais il y a tellement de bruit entre les animaux, les sangliers qui viennent renifler à côté de ta tente le soir. Il y a la vie qui grouille partout autour de toi, et c'est vrai que t'as pas l'habitude de ça quand tu dors dans un lit entre quatre murs. Donc ça, j'ai adoré le bivouac. Et après, t'as ta petite popote, tu te fais... Moi, j'ai beaucoup mangé de coquillettes 3 minutes. J'avoue que c'est pas de la grande gastronomie, hein, mais ça m'a quand même nourri pendant pas mal de mois. Et puis quand t'es en refuge, c'est sympa parce que tu rencontres aussi d'autres randonneurs. Dans les Pyrénées, j'ai fait plus de refuges aussi parce qu'il faisait quand même plus froid. Et puis que les journées étaient beaucoup plus courtes, donc quand il fait nuit tôt et froid, c'est vrai que c'est plus sympa d'être en refuge que dans ta tente. Mais je l'ai aussi fait, mais c'est vrai qu'il faisait bien, bien frais sur la fin. Donc ouais, une journée type, c'est difficile de dire, mais tu prends vite un rythme un peu comme si t'allais au boulot en fait, mais toujours avec le sourire. Non, c'est pas vrai, pas toujours avec le sourire. Il y a quand même des fois où physiquement c'est difficile. Mais étonnamment, j'ai eu des moments où j'étais fatiguée, où j'ai l'impression que j'arriverais plus. Donc là, je me faisais une journée, deux jours, trois jours de pause. Mais j'ai jamais eu envie de rentrer chez moi et de me dire bon, j'arrête, je suis fatiguée. Voilà. En fait, ça fait partie peut-être de s'écouter, de dire il faut que je ralentisse ou que je me pose un peu, sans remettre en question le trajet de manière, l'aventure de manière générale. Et puis la nuit, en fait, quand tu te reposes, c'est vraiment un repos complet, en fait. Et le matin, tu te réveilles, puis t'es hyper content de repartir, alors que le soir, t'étais tellement fatigué que tu te disais « je vais jamais y arriver ». Et puis en fait, ouais, on repart toujours curieux en fait, de la journée qui nous attend.
Mais comment on fait? Parce que tu dis il y a des moments difficiles, je pense aussi peut-être à les journées de pluie, à marcher sous l'eau, les pieds mouillés, c'est pas agréable, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour transcender ça et se dire non, je continue d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on garde le cap et qu'on retourne pas dans son confort et dans son quotidien avec une bonne douche chaude et des draps pour s'endormir?
Peut-être une histoire de fierté mal placée, je ne sais pas en fait. Mais alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pluie au début dans les Vosges, donc j'ai découvert les chaussettes imperméables. Je ne connaissais pas. Bah, c'était une grande découverte. Hein. Ça t'évite d'avoir autant d'ampoules que d'orteils. Et après, alors là, dans les Vosges, j'avais rencontré un retraité qui faisait une partie du GR. Et du coup, on a partagé quelques nuits au chaud ensemble. Donc ça aussi, c'est rigolo. Il n'y a que sur des randonnées où tu croises quelqu'un et tu lui demandes, ça t'embête si on partage la chambre cette nuit parce qu'il fait vraiment froid, il pleut, je suis fatiguée. Et puis, bah ouais, pas de souci. Puis du coup, on a partagé pendant 5 nuits des chambres d'hôtes. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. Et après, j'avoue que au fur et à mesure de l'aventure, quand il y avait de la pluie, comme j'avais rien qui m'attendait entre guillemets au retour, j'avais tendance à me dire s'il pleut, eh ben je m'arrête. Et du coup, j'ai aussi passé des longues journées à attendre le lendemain, à bouquiner, à faire d'autres choses ou pas forcément à marcher sous la pluie parce qu'il faut quand même que ça reste un plaisir, je trouve. En tout cas, pour ma part, c'était important.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc 4 mois et demi, 2300 km sur l'Exatrek, une traversée de la France. Et donc aussi, ça t'a permis de découvrir ton pays, les différents paysages. Hein, tu disais les Vosges, le Jura, les Alpes. Donc parle-nous un peu de l'itinéraire et de ce que tu en as retenu.
Alors oui, alors l'Exatrek qui part du coup, enfin ça dépend dans quel sens on le fait, mais moi je suis partie de Wissembourg au nord de l'Alsace. Donc tu traverses les Vosges, le Jura. Alors les Alpes que moi j'ai pas traversé parce que c'est pour ça que je l'ai pas fait en entier parce que je suis arrivée il y avait encore plein de neige, voilà, je le sentais pas de partir, enfin c'était pas la même aventure, je trouve, de partir dans ces conditions, donc j'ai choisi de pas faire les Alpes et en plus comme je suis pas très rapide c'était bien comme ça. Et donc après t'as le Vercors, toutes les Cévennes et la traversée des Pyrénées qui était pour moi c'était vraiment le meilleur pour la fin, si je puis dire ça comme ça. J'avais jamais mis les pieds dans les Pyrénées et j'ai adoré. C'est immense, c'est sauvage. En plus, comme j'y étais plutôt sur fin août, septembre et jusqu'à mi-octobre, voilà, il y a plus grand monde aussi sur les sentiers. C'est la fin de saison. C'était superbe. Et puis voilà, j'ai eu de la neige. Ça a été pour moi c'était le plus difficile physiquement parce que voilà, tu montes, tu descends, t'as vraiment des dénivelés qui sont assez incroyables, mais c'était le plus intense et les paysages pour moi les plus dingues de toute cette traversée. Après, de manière générale, la France est vraiment très belle, le Vercors c'est super beau. Moi j'ai découvert les Vosges du Nord alors que j'habite juste à côté, je connaissais pas du tout les Vosges du Nord. C'est chouette, puis c'est vrai que l'Exatrek a l'avantage aussi, je trouve, on passe peu dans les villes, on est vraiment sur sur de la montagne, sur des sentiers assez préservé, voilà, on ne traverse pas des zones industrielles et du coup ça donne vraiment l'impression d'être aussi pendant des mois dans une petite bulle comme ça.